Bonjour et bienvenue à tous. Quelle joie pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Quelle joie d'être de retour. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne et ici à Nouvelle Vie. C'est une grande joie d'être de retour. Vous m'avez manqué. En québécois, on dit « je me suis ennuyé de vous ». J'étais dû pour la première fois en 31 ans être absent pendant quelques semaines, t'es foudroyé par l'influenza, après ça, des sinusites à répétition avec tous les cycles d'antibiotiques qui ont déclenché la labyrinthite. La labyrinthite, c'est quelque chose avec lequel je combats depuis peut-être 25 ans, différents niveaux. Mais là, ça a été la pire saison. Ça a duré plusieurs semaines avec des migraines, avec des étourdissements, des vertiges et même jusqu'à des nausées. Alors, merci pour vos prières. Le Seigneur a relevé, le Seigneur a fortifié. C'est aussi une joie et une source profonde d'encouragement pour moi dans les dernières semaines. Ça fait des années que je vous le dis, que l'Église Nouvelle Vie n'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est l'œuvre d'un dream team. Et tout le monde, j'étais tellement béni de voir le royaume qui avançait de semaine en semaine, les assistances des sites qui grandissent, les baptêmes d'eau, une centaine et plus de baptêmes d'eau sur tous les sites pendant le mois, les rassemblements de jeunes adultes avec 500-600 personnes. Dis-moi, vendredi soir passé, ce vendredi soir, il y avait 230 ou 227 ados à une réunion d'adolescents, les baptêmes, les vies transformées. Et quelle équipe de communicateurs, de prédicateurs Dieu a rassemblé. J'étais tellement béni de dimanche en dimanche. Chantal et moi, on était dans notre salon et on louait le Seigneur. On avait les larmes aux yeux de voir tout le royaume de Dieu, de voir toutes les communications qui ont, les messages qui ont pris place de dimanche en dimanche. Pasteur Stéphanie, Pasteur JP Baudry, Pasteur Ben Newton, Pasteur Marc, Pasteur Thomas Diang, chacun avec un message qui venait de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble l'équipe que Dieu a rassemblée à Nouvelle Vie? Nous sommes dans notre série « En chemin vers la résurrection ». Et j'aimerais commencer ce message ce matin en chemin vers la résurrection avec cette déclaration tellement saisissante de l'apôtre Paul dans Philippiens 3, les versets 10 à 13, où il dit « Ah, afin que je puisse le connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, non seulement dans la mort, mais pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. » Là, l'apôtre Paul dit quelque chose d'hallucinant. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Le mot ici, c'est la maturité, l'épanouissement, la plénitude. Non, non, non. Je cours. Je continue à courir pour tâcher de le saisir puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été saisi par Jésus-Christ? Il a été saisi par Jésus-Christ. Et frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi. Tellement fort qu'ils disent ça. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est à l'arrière et me portant vers ce qui est en avant. Wow! L'apôtre Paul, l'homme avec la plus grande révélation de la grâce de Christ, la majorité des historiens s'entendent pour dire qu'il avait l'équivalent d'un double doctorat en histoire, en philosophie de son époque, et doctorat, bien sûr, dans la loi, dans la Torah, dans la théologie, dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, aucun homme avec une plus grande révélation de Christ, expérience de son salut sur la route de Damas, où Christ lui-même lui apparaît au miracle, au signe, au prodige, aux visions qu'il a eues, la révélation qu'il a eue. Et pourtant, il dit, ce n'est pas comme si je l'avais. Je ne l'ai pas encore saisi. Je cours encore. Je tâche de le saisir. J'ai encore tellement à saisir sur la puissance de la résurrection. Paul déclare, je suis tellement loin d'avoir atteint la maturité de connaissance et d'expérience dans la résurrection. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Moi, je me mets à côté de Paul. Si Paul peut dire cela, je dis ce matin, Seigneur, renouvelle-moi dans la puissance de la résurrection. Il n'y a personne qui en a fait le tour. Il y a deux types de foi chrétienne, immature et incomplète en relation avec ce que la Bible appelle la doctrine de la résurrection, notre série « En chemin vers la résurrection jusqu'à Pâques ». Il y a deux types de foi chrétienne qui sont bibliquement immatures, incomplètes, dangereuses en relation avec la doctrine de la résurrection. Une doctrine de la résurrection sans fondement solide est aussi dangereuse. Une doctrine de la résurrection pour le futur seulement. Beaucoup de croyants, Beaucoup de croyants n'ont pas un fondement solide dans leur doctrine de la résurrection. Dans Hébreux, chapitre 6, les versets 1 et 2, l'auteur dit ceci. C'est pourquoi avançons, progressons au-delà des enseignements élémentaires, fondamentaux de la parole de Christ, afin de grandir, avancer et de graduer vers la maturité. Paul parlait de cette maturation. N'ayant pas à poser à nouveau le fondement, la fondation de la repentance, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu seul et de la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. Pasteur Mark a prêché un message fantastique la semaine dernière, si vous l'avez manqué, allez le chercher en ligne sur ce sujet. Il dit, c'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. L'auteur aux Hébreux leur rappelle à eux et à nous les ABC de la foi, qu'il y a des fondements de la foi. Et à l'époque des Hébreux jusqu'à aujourd'hui, il y avait des multitudes de chrétiens qui partaient dans toutes sortes de choses périphériques, dans toutes sortes de sujets qui n'avaient même pas le fondement ou avaient délaissé le fondement. L'auteur nous dit à quel point c'est important, les fondements qu'il ne faut surtout pas ignorer ou délaisser, mais desquels Dieu désire toujours nous voir grandir, approfondir, avancer. L'expression ici, dans le grec, c'est bâtir comme sur un fondement pour progresser vers la maturité. Le téléo, la maturité, la graduation vers the next level. Il y a plein de gens qui cherchent toutes sortes de choses, mais qui n'ont pas le fondement ou l'ont laissé ou abandonné. Même le mot fondement ici en grec, c'était l'expression qui s'utilisait pour graver sur des pierres. L'auteur aux Hébreux dit, il faut que tu aies ce fondement de la résurrection. Tout tu dois connaître et pratiquer les fondements de la résurrection sans lequel ton christianisme n'est pas un christianisme biblique. Beaucoup de croyants pensent connaître beaucoup sur beaucoup de choses et focalisent sur des choses périphériques. Leur vie entière est sur l'aspect de la prophétie ou du prophétique ou de la louange ou les signes étant de la fin ou certaines doctrines divisantes et n'ont pas pratiquement aucune doctrine solide de fondement de la résurrection. L'apôtre Paul dit, voici quelques fondements. La repentance, je ne veux pas le message sur la repentance ce matin, mais la repentance comme fondement, le métanoïa en grec, changement de mentalité. C'est la repentance pour venir au salut, mais pas seulement une repentance de change ma pensée. Je croyais que je n'avais pas besoin de Dieu, mais je reconnais que j'ai besoin du salut en Jésus-Christ. Mais comme mode de vie, as-tu arrêté de te repentir? C'est un fondement. Changement de pensée, changement de direction, une repentance qui est intellectuelle, émotionnelle, volitionnelle, spirituelle. Est-ce que Dieu peut encore te parler et est-ce que tu peux encore changer? Dis à la personne près de toi, pose-lui une question avec un sourire, mais pose-lui la question, est-ce que Dieu peut encore te parler et te changer? Demande ça à quelqu'un près de vous. Les fondements du renoncement aux œuvres mortes, nous dit l'auteur aux Hébreux, pour la foi en Dieu seul. La foi en Dieu seul. Non, notre foi, épitaïen en grec, ça veut dire la foi qui se repose. On l'a chanté, Sébastien l'a dirigé magnifiquement. On s'appuie, nous nous reposons, nous nous appuyons en Dieu seul. Pas sur nos œuvres religieuses à nous ou nos œuvres, mais uniquement sur l'œuvre parfaite et accomplie par Christ à la croix et à la résurrection. Lorsque tu vas entrer au ciel, tu n'entreras pas au ciel en te vantant de tes accomplissements religieux. Tu ne rentreras pas au ciel en disant, moi, je connaissais des versets, moi, je suis allé tant d'années à Nouvelle Vie, moi, j'ai. Combien savent que lorsque je vais arriver au ciel et que je vais le voir face à face et que je vais voir les cicatrices dans ses mains et dans ses pieds, je vais lever mes mains et dire, c'est seulement à cause de lui, de ses mains, de ses pieds, de la croix, de la résurrection que je suis ici aujourd'hui. Voulez-vous applaudir le Christ ressuscité? Le fondement est l'enseignement fondamental, élémentaire, essentiel de la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. L'apôtre Paul dit, c'est ce que nous allons faire du voulant, c'est ce qu'on fait nous avec cette série. Non seulement les messages du dimanche, mais en ce moment, des heures et des heures de préparation, on a mis plein de messages sur pourquoi on croit à la résurrection, les preuves logiques, factuelles et historiques de la résurrection. Il y a plusieurs messages. Tous les pasteurs de nos sites, leurs messages sont sur le micro-site lacroix.nouvellevie.com. D'ici à Pâques, prenez une heure ou deux dans la semaine, un épisode de moins dans une série pour juste aller chercher un message, aller nourrir votre foi en la résurrection. Parce que sans la connaissance, sans une forte connaissance, compréhension et conviction spirituelle qui alors devient une confiance et une conduite de vie par la doctrine de la résurrection. Sans une doctrine forte de la résurrection, ta foi peut être une idole. Il y a plein de chrétiens qui se sont façonnés une idole. C'est ça, moi, c'est comme ça, moi, quand je suis Dieu. Ça, c'est ma foi chrétienne. Quand ça va mal, je crie, je pleure, je touche, j'aime le worship. Ils ne connaissent même pas la résurrection. Ils ne savent même pas qu'il est mort pour eux et seulement lui qu'ils peuvent ressusciter. Écoute-moi ce matin, en ligne et en personne, sans une connaissance de la résurrection, ta foi peut être une idole. Ta foi est instable et inquiète. Sans une compréhension profonde de la résurrection, tu doutes de la souveraineté de Dieu. Lorsque les choses vont mal dans ta vie, tu vas douter de ton salut. Sans un fondement solide sur la résurrection, ta foi, notre foi peut perdre l'intentionnalité divine initiale. Nous ne sommes pas ici simplement pour se réunir entre nous. Nous sommes ici. Nous sommes le peuple de la résurrection sur la terre. Nous sommes là pour annoncer la résurrection sur la terre. On n'est pas un Bless Me Club à l'intérieur. Chacun d'entre nous appelé à être des proclamateurs de la résurrection. Tu as besoin d'un fondement solide de la résurrection. Sinon, ta foi peut devenir inerte. Vraiment. Elle devient impotente. Elle devient sans impact ou incidence dans les combats et épreuves de tous les jours. Le mot, l'autre extrême d'immaturité, de foi incomplète face à la résurrection, c'est la doctrine de la résurrection qui est vue par des chrétiens comme au futur seulement. Dans l'après-vie, après, je vais mourir, je vais être ressuscité avec Christ. Le mot résurrection, c'est en grec dans le Nouveau Testament, c'est anastasis. Ça vient du mot ana, répéter à nouveau, et statis veut dire se lever, se relever. La résurrection, c'est se lever à nouveau, être debout à nouveau, être vivant à nouveau. Jésus dit, j'ai le pouvoir de te relever à nouveau. Tu as été renversé, tu as été frappé, tu as tombé, tu as été mis KO. Il est la résurrection et la vie. Il a le pouvoir de te tenir sur tes pieds à nouveau. Quelqu'un devrait applaudir la résurrection. Pas seulement dans un futur au ciel après, mais ici, présentement dans ta vie. Parce que Christ est ressuscité, l'Esprit de la résurrection est en toi et moi. C'est Romains 8, 11. Si l'Esprit, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit de la résurrection est en toi si tu as donné ta vie à Jésus. Pas seulement une résurrection éternelle, l'esprit de résurrection éternelle future, après, pour des multitudes. Non, non, non. Maintenant, renouvelé dans chaque aspect de ta vie, aujourd'hui, demain et jusqu'à la résurrection éternelle. L'Esprit de Dieu qui peut et veut ressusciter, le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Ressusciter ta joie, ressusciter ta foi, ressusciter ta marche avec Dieu, ressusciter ta liberté, ramener, ranimer, te relever lorsque tu as été frappé, ressusciter ta capacité de relâcher, ressusciter ta capacité de pardon. Il est la résurrection et la vie. Ressusciter de ton passé, ressusciter ton présent pour que tu t'empares de ton avenir. Parce que Christ est ressuscité, nous pouvons être guéris. Nous pouvons être guéris. Actes 4, 9 et 10. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous aujourd'hui. Les disciples, à ce moment-là, donnent des explications devant les autorités religieuses du temple pour la guérison d'un homme mendiant qui a été boiteux pendant 40 ans depuis sa naissance. Ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente maintenant entièrement guéri. Je veux te rappeler qu'à chaque fois qu'on vient ici, on ne joue pas à l'église, on ne chante pas des chansons pour après ça faire quelques prières rituelles. À chaque fois que nous levons la voix en prière, nous appelons à notre Dieu de résurrection. Il est la résurrection et la vie. Il peut guérir, nous guérir physiquement, psychologiquement, relationnellement. Il est notre guérison. Nous avons tous des moments, nous sommes tous ce boiteux qui boitons dans un aspect ou un moment de notre vie. Mais c'est par la résurrection que nous pouvons croire pour une pleine guérison. Comprends bien, le chrétien marche de guérison en guérison, partielle et temporaire, parce qu'on a toujours besoin d'une autre guérison jusqu'au jour de la guérison éternelle par la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? Ne laisse pas l'ennemi t'accuser. Ne laisse pas ton passé t'accuser ou des gens être utilisés de l'ennemi pour t'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. J'ai l'assurance que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Jésus est ressuscité en ce moment à la droite de Dieu. Il intercède pour toi, il se tient à ta place pour toi. Si tu es en lui, tu es là avec lui. Quels que soient tes combats ou tes défaites de cette année, tu es là en position, ta position avec lui. Tu es parfaitement, parfaitement accepté, parfaitement pardonné, parfaitement justifié. Personne ne peut t'accuser. Tu es un enfant de Dieu. Parce que Christ est ressuscité, nous avons une confiance dans nos épreuves. Ce n'est pas pour après seulement, la résurrection n'est pas seulement future. Mais elle est là tellement, tellement essentielle. Quand tu traverses ta pire épreuve, quand tu traverses tes pires défaites, les tempêtes, les échecs, les fautes, les chutes, les menaces, les craintes, ta résurrection se conjugue au présent. Elle se conjugue aujourd'hui, au présent, pour faire toute la différence dans nos vies. Écoutez l'apôtre Paul qui ne parle pas seulement du après, du ciel. Il nous donne témoignage lorsqu'il est dans 2 Corinthiens 1. Il parle de ce qu'il vivait. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et on regardait comme certains notre arrêt de mort. C'est comme si tout était mort autour de nous. Mais nous n'avons pas placé notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. C'est lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Là, vous ne devrez pas traverser une de ses pires saisons, mais il dit, « Il m'a délivré et il me délivrera encore. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner témoignage avec moi ce matin? « Il m'a délivré. » Il nous a délivrés et il nous délivrera encore. Il m'a délivré de mes peines, il me délivrera encore de mes peines. Il m'a délivré de mes peurs, il me délivrera encore de mes peurs. Il m'a délivré de mes culpabilités, il me délivrera encore de tous les pièges de l'ennemi jusqu'à son retour. Parce que Christ est ressuscité, nous avons une mission de vie extraordinaire ensemble. 2 Corinthiens 5, 15. Et il est mort pour nous tous, et qu'il est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si un chrétien n'est pas, le chrétien qui n'est pas un, le chrétien n'est pas un chrétien biblique s'il est dans une saison ou une portion ou un mode de vie chrétienne où il vit pour lui-même, où il ne contribue pas avec sa vie, avec son témoignage, avec ses dons, avec son talent, avec ses prières, avec le fruit du travail de ses mains, où il ne contribue pas. Il n'est là que pour lui-même. Ce n'est pas un chrétien biblique. Il ne contribue pas à notre raison d'être et notre mission de vie ensemble, communiquer la résurrection. Le chemin, notre thème, c'est le chemin de la résurrection. Le chemin de la résurrection n'est pas un chemin où les chrétiens et l'Église de Christ marchons entre nous. Toute l'Église pense que le chemin de la résurrection, c'est entre nous. Le chemin de la résurrection est un chemin où nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Non, car il est ressuscité pour eux. 31 ans de nouvelle vie, toujours c'est cette avance, cette poursuite. Au mois de mai de cette année, Pasteur Mark et moi, ça va faire 40 ans de ministère temps plein. On a gradué au mois de mai 1984, 2024, 40 ans de ministère, 40 ans. Et continuellement, les gens disent, mais pourquoi encore pousser, pourquoi encore prier, pourquoi lorsque vous avez eu la première salle qui était pleine, pourquoi une deuxième réunion, et pourquoi une deuxième salle, et pourquoi une troisième salle, et pourquoi un deuxième site, et un troisième, et une première, et une deuxième, et pourquoi un ITF pour former des serviteurs, et pourquoi New Life Church, et pourquoi Nueva Vida, et pourquoi Nouvelle Vie, Trois-Rivières, et pourquoi? Pour eux, pour les âmes, pour ceux qui ont besoin de vivre et d'expérimenter la résurrection. Pourquoi une troisième réunion dimanche matin de Pâques? Vous avez tous changé les heures, la troisième va finir un petit peu plus tard. Parce que comme Véro l'a dit, l'année passée, il y a eu entre 500 et 700 personnes de plus à chacune des réunions du dimanche matin que le dimanche précédent. Et nous avons grandi de beaucoup, de plusieurs centaines de personnes depuis ce temps-là. On ajoute une troisième réunion et oui, devant vous, comme public, témoins, vous êtes des milliers de témoins, et en ligne, chaque réunion va durer 1h15. Je ne comprends pas les rires, Chaque réunion va durer 1h15. Les chorales vont chanter. Nous avons des témoignages. On prépare plein de vidéos de témoignages. Je vais apporter un message. Ce dimanche-là va être le dimanche où tu vas être assis. Tu vas dire, c'est ça que je voulais que mon frère, mon fils, mon ami, mon voisin, mon ami, mon ennemi, mon patron, mon employeur, c'est ça que je voulais qu'il entende. On fait une alliance ensemble. Aux 3 réunions, nous avons l'opportunité ici, spirituel, de faire équipe ensemble et ici, à Nouvelle Vie, d'avoir 5 à 6 000 personnes qui vont entendre la voix de Dieu qui dit « Ce qui est mort va revivre! » Vous devez applaudir la vie qu'il va donner. C'est notre thème ce matin que je vais continuer dans le prochain message. 2 puissantes révélations à saisir aujourd'hui qui peuvent tout changer pour ta vie, pour ce qui semble mort en toi ou quelqu'un près de toi. Ce que j'appelle l'irrévocabilité de la résurrection et l'incarnation de l'amour de Dieu dans la résurrection. Donc, regardons ensemble à Jean, chapitre 11, les textes vont apparaître à l'écran. C'est la résurrection de Lazare. Il y a 10 résurrections dans la Bible. Il y en a 3 dans les Évangiles. La fille de Jairus a été ressuscitée. Le fils de la veuve de Naïn a été ressuscité. Et Lazare, dans Jean, chapitre 11, on arrive au miracle final, juste avant la Pâque. La majorité des commentateurs placent cet événement dans les jours, dans la semaine avant la Passion. C'est une avant-première. Jésus en ressuscitant Lazare, c'est une avant-première à sa résurrection, mais aussi à notre résurrection. Jésus dit, ce que je fais à Lazare, je vais mourir et ressusciter et je m'apprête à le faire pour des millions et des millions de personnes jusqu'à ce que je revienne. Alors, dans Jean chapitre 11, il y a, le chapitre commence avec Lazare qui est malade. Ses sœurs envoient un message à Jésus. Jésus retarde, entend le message, mais retarde avant de venir. Et lorsqu'on arrive au chapitre 11 et au verset 23, on reprend le récit dans la conversation de Jésus avec Marthe, une des 2 sœurs de Lazare. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Nouvelle Vie, crois-tu cela? Toi en ligne, est-ce que tu crois cela? L'irrévocabilité de la résurrection. Irrévocable veut simplement dire qu'il ne peut pas être révoqué, qu'il ne peut pas être changé. On ne peut pas revenir. Impossible de revenir. C'est le fondement de la doctrine de la résurrection. Ce qui est mort va revivre. Chaque être humain va revivre. Ce qui est mort va revivre. Chaque être humain va vivre éternellement. Avec Dieu, après cette vie sur cette terre. Avec Dieu ou sans Dieu. Pardonné ou perdu. Séparé de Dieu pour l'éternité ou sauvé avec Dieu pour l'éternité. Il est appointé à chaque homme ou femme de mourir une fois et après le jugement. L'irrévocabilité de la résurrection. Plein de versets comme Ecclésiaste chapitre 8 qui nous dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'y a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'a pas d'échappatoire dans ce combat. Nul ne peut y échapper. » Dans le psaume 90, 10 à 12. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, 80 maintenant avec la médecine, la technologie, la science. Certains vivent plus vieux, mais c'est prêt, c'est tout prêt. Et l'orgueil qu'ils en tirent passe vite. Et après, nous nous envolons. Enseigne-nous donc à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Les tout derniers sondages, les plus modernes, les plus récents, le confirment. Le taux de mortalité pour l'être humain est à 100%. C'est appointé à chacun de mourir une fois. Notre culture, depuis plusieurs générations, nous conditionne dès l'enfance jusqu'à la vieillesse, partout, tous les médias, partout, de l'école aux médias, partout. À une philosophie de notre existence qui force et dicte sans réflexion ni questionnement une adhérence aveugle à la folle équation que rien plus personne égale tout. Génération ancienne qui grandit, il n'y avait rien avant, il n'y a de rien et de personne, tout ça, l'univers, la complexité, l'être humain, que de rien et personne, tout apparaît pour une vapeur de quelques années, pour retourner au néant par la suite, sans aucun sens profond à nos vies. C'est ainsi que des générations grandissent dans cette nation, sans sens de justice, sans transcendance, conséquence, récompense ou assurance face à la mort. La Bible enseigne que chaque être humain va vivre pour toujours. C'est la parole du Créateur. C'est la parole de Dieu. C'est mon devoir de vous l'annoncer. C'est ma responsabilité. Mais c'est votre décision de la recevoir ou de la rejeter. Non seulement vas-tu, allez-vous vivre, toi et en ligne, allez-vous vivre pour toujours en esprit, mais encore dans votre corps aussi. Pas le corps actuel, un corps spirituel, c'est ce que la Bible enseigne. Écoutez-moi ce matin, ce qui est mort va revivre. Tu vas vivre éternellement. Tu n'es pas seulement un photoplasme ou un cytoplasme, le corps humain. Un assemblage cellulaire venu de personne et de nulle part pour exister pour un temps et finir en décomposition. Tu es plus que les 206 os et 639 muscles dans ton corps. Tu es plus que les différents niveaux de complexité biologique. Tu es plus que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote qui composent le corps humain. Tu es plus que des organes et un système nerveux. Tu es plus que les 36 milliards de cellules de ton corps, dans 300 types différents, dont l'ADN de chacun pourrait s'étirer sur 2 mètres s'il était déroulé. Tu es une création de Dieu. Tu es corps, tu es âme et tu es esprit et tu vas vivre éternellement. Et Jésus a dit, crois-tu cela? Celui, je suis la résurrection de la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Écoutez les paroles de Jésus. Seigneur, mets ton onction. Il y a 2 endroits dans l'après-vie. 2 états, 2 conditions, 2 existences possibles après cette vie pour chaque être humain. Une de regret et de remords infinis. Une de repos et de récompense illimitée. Une éternité de jugement devant la justice de Dieu ou une éternité pour ceux qui ont refusé de recevoir Christ ou une de joie ineffable, inexprimable pour ceux qui ont reçu avec repentance et reconnaissance le don gratuit de la vie éternelle. Écoutez Jésus, Jean chapitre 5, verset 28-29. Ne vous étonnez pas de cela. On ne t'a pas dit ça à l'école, on ne t'a pas dit ça à aucun endroit, mais la parole éternelle de Dieu te dit, ne vous étonnez pas de cela. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. De quel bien, de quel mal Jésus parle ici? Parle-t-il ici? Le seul mal de conséquence éternelle, c'est le mal de refuser ou de rejeter le chemin, la vérité et la vie et le salut que Jésus offre. Le seul bien qui est de conséquence éternelle, c'est de recevoir le salut, le chemin, la vérité et la vie en Jésus. Le seul chemin, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus, dans Jean 14, 6, dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne dit pas « Je serai la vie. » Il est la vie depuis toujours et pour toujours. Il ne dit pas « Je suis un des chemins, je suis le chemin. » Pas une vérité, la vérité. Il n'est pas un donateur de vie. Il est la source de la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est notre seule justice. Il est notre seule espérance et confiance d'être justifié et dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous au salut, à la croix et à la résurrection. Actes 24, 15 et 16. Ayant en Dieu cette espérance qu'il y a une résurrection des justifiés en Jésus et de ceux qui n'ont pas été justifiés en Jésus. Tout le monde va ressusciter avec Jésus ou sans lui. Crois-tu cela? Si tu connais et tu comprends cela, cette réalité et vérité spirituelle, si tu en es convaincu, ça va changer ton cœur, ça va changer tes convictions, ça va changer ta conscience, tes choix de vie, ta conduite. Je vais avoir à rendre compte, à me présenter devant Dieu, je vais marcher avec lui sur cette terre. Ça va changer le cours de ta vie, puis ça va aussi changer, ça va faire en sorte que tu vas toujours continuer à combattre à travers tous tes combats. Tu n'abandonneras pas parce qu'il est ressuscité et le pouvoir de la résurrection est pour moi. Littéralement, est-ce qu'il est la résurrection et la vie, l'irrévocabilité de la résurrection est que chaque être humain va ressusciter pour vivre éternellement avec Dieu ou séparé de lui. Une minute de théologie importante ce matin pour chacun d'entre nous. 1 Corinthiens 13, l'irrévocabilité, 1 Corinthiens 15, l'irrévocabilité de la résurrection. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? C'est Dieu qui donnera un corps comme il lui plaît. À chaque personne, il donnera un corps qui lui est propre. Il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. L'éclat des corps célestes que Dieu va nous donner sera tout autre que celui des corps terrestres. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps humain sera semé naturel, mais il ressuscite pour vivre éternellement. Il est semé mortel, mais il ressuscite corps spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, chacun d'entre nous est terrestre. Mais le second homme, la nouvelle naissance, le second homme est du ciel. Comme les hommes auront été sur la terre, ainsi ils seront dans le ciel. Si tu as vécu une vie en refusant et en résistant et en rejetant Dieu sur la terre, tu vas être séparé de lui. Comme tu étais sur la terre, tu vas être séparé dans l'éternité. Si tu as cru en Christ et son salut pour toi, comme ton sauveur, comme ton Seigneur, tu vas avoir accès à la puissance de sa résurrection à chaque jour de ta vie jusqu'à la résurrection permanente et éternelle. Le chrétien est quelqu'un qui naît deux fois et ne meurt jamais. Tu n'auras aucune peur, aucune crainte de la mort pour le chrétien. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15. Le corps est semi-corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Il est semi-méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semi-faible et frêle, il ressuscite éternellement plein de force. Il faut que ce corps corruptible, cette enveloppe, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, êtes-vous prêts? Alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta morsure? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Quelqu'un devrait applaudir, « Je ne mourrai jamais. » Chacun d'entre vous qui avez connu de voir un de vos bien-aimés qui marchait avec Dieu être atteint, se détériorer, cette enveloppe s'effriter, souffrir par la maladie, il y a un corps glorieux qui attend chaque croyant. Une éternité. Mais parce que Claude, ça va être comment le ciel? En passant, on a fait plusieurs messages sur ce sujet, on en fera toujours plus. L'apôtre Paul a dit, vos yeux n'ont pas vu votre cœur, ne peut pas imaginer. Le cœur de l'homme ne peut pas imaginez les choses que Dieu a préparées pour après, mais il a dit ceci. Nous vivons en Jésus-Christ, ce qu'il appelle les arts de l'esprit, les prémices. Nous vivons en Dieu, en notre relation avec Dieu. Sur la terre, ici, nous vivons des gouttelettes qui se comparent à un océan. Si vous pensez un instant, au moment de votre vie, j'essaie juste de vous donner un mode. Déjà que notre cœur ne peut pas le concevoir, ce que Dieu a préparé. Mais nous goûtons en Jésus ses prémices. Essaye de te rappeler le moment de ta vie où tu as eu le plus... On a des moments dans nos vies de la plus pure joie. Peut-être c'est lorsque tu tenais ton enfant dans tes mains. Il y a un moment de plus pure joie dans ta vie. Sur la terre, ces moments-là, ils viennent et ils passent. Et multiplie-les aux zillions dans la joie dans la présence de Dieu. Le moment dans ta vie où tu as été le plus aimé sans condition. Le moment où tu t'es senti le plus accepté, approuvé, aimé, et ça passe, et ça s'en va. Mais tu l'imagines dans la présence de Dieu, aimé par lui éternellement. Le moment où parfois on a ce sentiment de je suis libre de liens de ma chair, mais ces moments-là, ils passent. Mais imagine ce moment, multiplier un zillion de fois dans l'océan, d'être accepté, d'être libre en lui. Les moments, peut-être, as-tu vécu des moments dans la présence de Dieu. Combien ici, j'ai déjà vécu des moments dans la présence de Dieu où pendant que tu es là, c'est comme, c'est tellement bon, c'est tellement magnifique. C'est une goutte, c'est un iota, c'est une gouttelette en comparé de l'océan dans sa présence pour ceux qui vont avoir marché dans la résurrection. Peut-être qu'il y a des moments, moi ça m'arrive pas souvent, mais peut-être qu'il y a des moments où on vit qu'on a un sentiment, on n'est pas parfait, mais un sentiment que j'ai bien servi Dieu. Seigneur, j'ai bien fait. Et ces moments-là passent. Mais crois-moi, ce n'est qu'une goutte en ce jour où est-ce qu'on se retrouvera face à face avec lui. Il dira, bien fait, bon et fidèle, serviteur, et l'amour, et la joie, et la paix, et l'acceptation, et l'amour de Dieu qui va nous remplir. Quelqu'un devrait dire amen. C'est l'irrévocabilité de la résurrection. Et c'est l'incarnation. Ce qui est mort va revivre. Et dans la résurrection, nous retrouvons l'incarnation de l'amour de Dieu, l'incarnation de l'amour de Dieu dans la résurrection. En chemin, dans Jean 11, en chemin vers la résurrection, il y a des obstacles qui sont là, qui sont les mêmes que nous. Dans le même contexte, Jésus manifeste l'incarnation du cœur de Dieu, l'amour de Dieu envers nous, dans le même contexte que Jean 11. On regarde ensemble juste quelques passages. La résurrection, l'amour de Dieu s'incarne dans la résurrection, dans nos vies, dans un contexte d'incrédulité inconsciente. Au chapitre 11, en route vers la résurrection, Lazare est mort et Jésus l'annonce aux disciples. Et au verset 15, il leur dit, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis. Jésus leur parle, ils l'ont vu guérir, ils l'ont vu ressusciter. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Thomas était, comme nous, en besoin de résurrection, avec une incrédulité inconsciente de la grandeur de celui qui est devant nous et que nous servons. Et le verset suivant donne une explication. Il dit, Jésus est arrivé, il trouva Lazare qui avait déjà été là dans le tombeau depuis 4 jours dans le sépulcre. C'est ces moments dans nos vies. Lazare était, il n'y a aucun embaumement à cette époque. Le corps est en décomposition. C'est ces moments dans nos vies où on peut dire, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien à cette situation, il ne reste plus rien à cet amour-là, il ne reste plus rien à ce rêve-là, il ne reste plus rien. Il est arrivé le moment d'impossibilité, mais il est devant le Dieu qui est la résurrection et la vie. C'est un contexte d'ignorance qui s'imagine connaître mieux que Dieu. Il y a deux sœurs, les deux sœurs de Lazare, on les a vues précédemment, différentes. Ils ont deux personnalités différentes. Vous vous souvenez, dans les évangiles, il y a un moment où Jésus entre dans la maison et Marthe est occupée dans la cuisine et Marie est assise à ses pieds. Et Marthe dit, « Dis donc, ma sœur, de venir me rejoindre. » Tu vois les deux personnalités. Il y a Marthe la directe et Marie la douce. Marthe qui prépare et Marie à ses pieds. Marthe dans la cuisine, mais Marie calme et même contemplative. Mais là, on arrive à un moment, ils ont envoyé un message à Jésus. Jésus a retardé de venir. Mon frère était malade et maintenant il est mort. Et Marthe, la directe, va parler au Fils de Dieu de cette façon, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Avez-vous déjà... Peut-être pas dans ces mots-là, avez-vous déjà dit à Dieu, c'est pas comme ça que je l'avais prévu. J'étais supposé t'appeler, je prie, tu réponds, tu guéris. Il n'y a plus rien qui se passe comme je pensais. Il m'arrive quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Je ne comprends pas ce que tu fais. Elle est presque en train de corriger le Fils de Dieu. C'était venu avant. Elle est devant celui qui était là à la Genèse et avant la Genèse. Et elle dit, si tu avais été là, moi j'avais un plan, puis tu ne travailles pas en ce moment selon mon plan. Marthe dit à Jésus, tu es en retard, Dieu. Elle était arrivée au bout, aux limites de sa foi. Si tu es au bout et aux limites de ta foi, il est la résurrection et la vie pour toi. Il veut se glorifier encore plus ce contexte où on doit, dans ces moments-là, où on est en poursuite de résurrection, mesure l'influence et l'impact de nos paroles les uns avec les autres. En besoin de résurrection. Avez-vous remarqué les mots, retenez les mots que Marthe a utilisés pour blâmer Jésus? Si ça avait été là, mon frère ne serait pas mort. Et vous allez un petit peu plus loin, et vous avez dans le chapitre, elle va chercher Marie à la maison, et Marie accourt auprès du Seigneur, Marie la douce, Marie la contemplative. Mais au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle dit, Seigneur, si ça avait été là, mon frère ne serait pas mort. En route vers la résurrection, chacun de nous avons cette responsabilité, ce sens de « attention, qu'est-ce que je vais communiquer? » Parce que Marie en est venue à communiquer exactement l'incrédulité que sa sœur lui avait, la contagion d'incrédulité. Qu'est-ce que j'écoute quand je suis en route vers la résurrection? Qu'est-ce que je communique aux gens autour de moi en route vers la résurrection? Il y a un contexte d'ingratitude de ceux qui avaient pourtant déjà vu au verset 37 et quelques-uns d'entre eux dire, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Ils avaient vu sa gloire et là, ils étaient remplis d'ingratitude et d'incrédulité. Laissez-moi faire un petit sondage, maison, nouvelle vie. Tu peux suivre en ligne aussi. Petit sondage, maison, nouvelle vie. Combien d'entre vous ici avaient déjà vu Dieu agir? Combien d'entre vous ici avaient été pardonnés par Jésus? Y a-t-il une main qui ne se lève pas? Pardonnez. Combien ici ont déjà été consolés par Jésus? Combien ici ont déjà vu Dieu intervenir en votre faveur dans votre vie? Je m'attendais à ce qu'il y ait des cris, des amen à mesure. Combien ont vu Dieu être bon, être fidèle, ressuscité encore et encore et encore? L'incarnation, la résurrection, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu qu'on voit au verset 33. Puis la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit. Et il fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Jésus pleura, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà en décomposition, il n'y a plus rien. Il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, il nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus pleura. Jésus arrive sur une scène de mort et il annonce qu'il est la vie et il va donner sa vie. L'incarnation de l'amour de Dieu. Lorsque vous lisez « frémir son esprit » ou « pleura », c'est plus qu'une larme sur la joue. C'est vraiment un mot, c'est une expression grecque très, très profonde. « Kleio » dans le grec parle de « sangloter profondément ». Bouleversé, peiné, exprimant, c'est une émotion avec plusieurs couches. Cléo, il a frémi, il a pleuré, exprimant à la fois de la compassion, de la peine, de la colère, de la douleur, douleur intérieure, de l'indignation, du tourment. C'est littéralement éclaté en sanglots. C'est éclaté des larmes d'émotion qu'il ne peut retenir. Jésus, la voyant pleurer, elle et tous ceux qui étaient venus, il frémit en esprit, profondément ému, et il s'approche de ce qui est mort. Et frémissant de nouveau, il se rend au sépulcre. La résurrection exprime l'incarnation. Jésus, dans la résurrection, est l'incarnation de toute la patience, de toute la passion de l'amour de Dieu. Il frémit, il est passionné pour toi, puis il veut s'approcher de ce qui est mort pour le ressusciter. Mais non seulement de sa passion, mais de sa patience. Il frémit de nouveau. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'entendre, il n'a pas fini de frémir à propos de toi. Il est encore celui qui est ému de compassion, dont les entrailles des miséricordes s'étendent vers toi. Il est encore celui. Jésus pleura. Connaissez-vous le mot ou l'expression ou le mot takatsubo? Takatsubo. Takatsubo, c'est un terme médical. On appelle ça le syndrome du cœur brisé. C'est une condition médicale réelle qui frappe certaines personnes, qui est provoquée, je vous lis un petit extrait médical, provoquée par une situation de stress aigu après un événement dramatique. Le cœur ne peut plus alors se contracter et assurer la fonction. C'est le syndrome du cœur brisé par le chagrin. Un drame, un décès, une rupture, un accident, une tragédie provoque une douleur ou une peur trop grande à supporter. En effet, les émotions vécues sont si intenses, submergent le cœur au point de donner l'impression qu'il pourrait exploser. Cette accumulation de stress et d'anxiété conduit alors à une fragilité pouvant provoquer une paralysie du muscle cardiaque. C'est une vraie condition médicale. C'est le syndrome du cœur brisé. C'est le takotsubo. Jésus pleura. C'est un prélude à la croix où Jésus est mort d'une lance qui lui transperça le cœur. Le Fils de Dieu offre sa vie et meurt d'un cœur brisé pour ressusciter et redonner la vie à tous les cœurs brisés. Jésus a vécu un takotsubo pour toi. Son cœur a explosé pour toi, pour moi. Et c'est tellement significatif et fascinant et tellement important que les Grecs de l'époque de Jésus décrivaient leur déité, leur multitude de déités, leur Dieu, par un mot, apatheia, qui veut dire aucun sentiment, incapable d'émotion, incapable d'empathie, incapable de ressentir. Jésus arrive sur la scène des temps et il dit, « Je suis le seul vrai Dieu et mon cœur ressent les douleurs et les souffrances. Et je viens pas seulement pleurer, je viens offrir ma vie pour guérir et rebâtir les cœurs brisés. » Jésus a pleuré. Il n'a pas pleuré seulement sur son ami Lazare dans ce moment-là. Il a pleuré sur l'incrédulité de toutes les nations, de tous les millénaires jusqu'à aujourd'hui. Il a pleuré sur le péché, il a pleuré sur la laideur de l'être humain lorsqu'il est loin de Dieu. Il a pleuré sur notre dureté les uns envers les autres, sur la méchanceté, sur la cupidité, sur les guerres et les violences et les génocides et le racisme, la discrimination et les pandémies, la culture de mort et de cruauté de l'homme lorsqu'il rejette Dieu. Mais il a pleuré et annoncé la profondeur et l'amour de Dieu par la résurrection qu'il allait offrir en appelant l'humanité entière une personne à la fois. Notre dernier texte, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Jésus appelle ton nom et te dit, ce qui est mort en toi ou pour quelqu'un autour de toi ou dans ta vie peut revivre, même lorsque tu as tombé, même lorsque tu as tout bousillé, même lorsque tu as échappé, même lorsque tu as brisé, fracassé ce qui était la volonté de Dieu dans ta vie, et tu le sais, dans ces moments où le mal et la brisure semblent irréparables, il ne reste plus rien, il est trop tard. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai lu dans une biographie intéressante, biographie des grandes pointures américaines, dans la biographie de Thomas Edison, il y a un livre qui parle de portions de la vie de Thomas Edison, Henry Ford et Charles Lindbergh, qui étaient trois amis, en plus de chacun leurs accomplissements respectifs. Ils ont travaillé ensemble à l'invention de la première ampoule incandescente en 1879. Des années de travail, puis arrive le moment. Il arrive le moment où ils vont la présenter, des journalistes qui sont là et tout. Et tous les enfants aux États-Unis apprennent ça dans leur livre d'histoire, ce moment-là où il y a un jeune stagiaire à qui on a confié l'ampoule. Il a commencé à monter les marches, tous les journalistes attendent en haut. Et alors qu'il est en train de... Ils ont travaillé pendant des années, mais là, c'était un 24 heures continu juste pour fabriquer cette première... C'était l'ébauche, c'était l'ancêtre de l'ampoule moderne. Et alors qu'il est en train de monter les marches, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il l'a échappé. Échappé, et l'ampoule a éclaté en mille morceaux. Alors, ils ont retourné à leur travail 24 heures non-stop, encore une fois. Et lorsqu'arrive le moment de remonter avec... les historiens disent le stagiaire travaillait avec eux à la nouvelle ampoule, mais il était en arrière. Et lorsqu'arrive le moment, Edison a dit, allez chercher le stagiaire. C'est lui qui va la reprendre. Il a dit, moi? Oui, toi. Oui, toi. Vous savez, comprenez-vous, il se croyait pardonné, mais disqualifié. Jésus dit, tu n'es pas seulement pardonné, tu n'es pas disqualifié. Je suis la résurrection et la vie. Mon cœur a explosé pour toi et j'ai encore des plans pour toi. Alors que les musiciens se préparent. En fait, la résurrection au complet se résume en trois mots. Et à Pierre. Pierre qui avait dit, si tous les autres te renient, moi je vais vivre pour toi. Les autres peuvent te renier, moi je vais mourir pour toi. Mais lorsque le moment arrive, brise, non seulement échappe l'ampoule, mais il la piétine. Renie le Seigneur, il va tellement chuter, va renier Dieu, blasphémer pour prouver qu'il ne le connaît pas. Et la Bible nous dit que lorsque son regard croise celui de Jésus, il se met à pleurer amèrement. Puis à chaque fois qu'il passait, il pleurait amèrement et il retourne à ses bateaux. C'est terminé pour moi. Mais lorsque Jésus, dans Marc 16, est ressuscité, le ciel dira ceci, il leur dit, n'ayez pas peur, vous cherchez. Le messager du ciel dit, n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Voulez-vous dire à voix haute, et à Pierre. À celui qui a tout échappé, à celui qui a tout gaffé, à celui qui a lâché, à celui qui a manqué, à celui qui a bousillé, à celui qui a dit, il est trop tard, il ne reste plus rien. Allez annoncer à celui qui pense qu'il peut peut-être être pardonné, mais qu'il est disqualifié, que je suis la résurrection et la vie. Mon cœur a explosé pour toi et j'ai encore des plans pour toi aujourd'hui. À Pierre et à Claude et à chacun d'entre nous. Et acte 2, 14, Pierre Anastasis. Pierre se leva debout à nouveau. 50 jours plus tard, oh Dieu, tu es tellement grâce. Que Dieu choisit de communiquer son message par un homme qui avait tombé et qui avait tout échappé. Et Dieu dit, c'est lui qui va communiquer le message de la grâce et du salut en Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection, qui va amener la naissance de l'Église sur la terre entière. Est-ce que vous savez qui est l'ami de Dieu? Qui est appelé l'ami de Dieu dans la Bible? Moïse. L'ami de Dieu. Moïse qui avait échappé une ampoule, c'était fou. Échappé une ampoule à tel point qu'il a été 40 ans, pas 4 jours comme Lazare, 40 ans pensant que tout était terminé. Dieu, dans son amour, va le chercher. Il le ramène et à Pierre, et à Moïse, et à Claude, et à chacun d'entre nous. Il va chercher Moïse et le ramène. Et là, Moïse va servir Dieu, il va voir le miraculeux sortir le peuple d'Égypte, des années de fidélité de Dieu, d'action miraculeuse. Il y a un moment où Dieu dit, c'est le moment ultime, tu montes sur la montagne, Moïse, je vais te donner le commandement, je vais te donner la destinée pour le peuple, je vais te donner les commandements pour des millénaires de générations à venir. Et si le garçon a échappé l'ampoule et Pierre avait échappé lui aussi, son témoignage. Moïse descend de la montagne et lorsqu'il voit la folie qui prend place sur la terre, lorsqu'il voit ceux qu'il avait laissés se tourner vers l'idolâtrie, c'est tellement laid, c'est tellement que Moïse prend les tables de pierre et il les fracasse. Il a échappé l'ampoule. Il a fracassé, il l'a piétiné. Et là, tu te dis, c'est vraiment fini pour Moïse. Il fracasse les tablettes des commandements de Dieu. Mais Deutéronome 10, 1 et 2, en ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille deux tables de pierre comme les premières et monte vers moi sur la montagne. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées afin que tu les mettes dans l'arche à nouveau. » Peut-être que tu as jeté, pas seulement échappé les tablettes de la destinée de Dieu sur ta vie, ou dans un aspect de ta vie qui est assez important, dans des vœux que tu avais pris. Peut-être que tu n'as pas juste échappé les tablettes, tu les as fracassées et tu pensais que c'était terminé. Mais Dieu dit, non, je vais prendre les tablettes que tu as brisées, prendre les premières et je vais encore réécrire ma volonté pour toi. J'ai encore un plan pour toi. Je suis la résurrection et la vie. Mon cœur a explosé pour toi. Lazare, sors! Est-ce que quelqu'un peut applaudir la grâce et la grandeur de la résurrection, l'incarnation même de tout l'amour de Dieu? Je pense qu'on devrait se lever et donner une ovation debout à notre Dieu. Une ovation, j'aimerais entendre une ovation debout. J'aimerais entendre un cri dans ce lieu. Oh mon Dieu, merci pour qui tu es. Merci pour la résurrection. Merci au Dieu. Et à Pierre, et à Claude, et à toi, et à moi. Alléluia! Alléluia! Les têtes sont penchées, demeurées debout. C'est un moment d'éternité pour toi en ligne et ici en personne. C'est le moment. Ne le laisse pas passer. Un appel très, très, très simple, mais qui va changer ta vie. Je veux, tu es ici ce matin, en ligne ou en personne. Et tu dis, je veux accepter ce que Jésus a fait pour moi. Je n'ai pas la folie. Il y a une irrévocabilité. Je vais me présenter devant Dieu un jour et ce matin, aujourd'hui, je veux accepter, je veux recevoir. Je ne veux pas résister, refuser, rejeter. C'est mon jour, le 17 mars 2024. Je veux accepter ce que Jésus a fait pour moi. Je veux recevoir son salut, sa résurrection dans ma vie. Dans ma vie. Je veux recevoir cette résurrection dans ma vie. Je le reçois. Je veux vivre pour lui et ressusciter avec lui. Si tu es ici ce matin et c'est ton matin, tu peux avoir 14 ans, 15 ans, tu peux en avoir 50, 60 ou 80, tu as besoin de venir à Dieu pour la première fois ou de revenir à Jésus. Si tu es ici, tu dis, je veux reconnaître mon besoin de Jésus. Je me repens, je change ma pensée et je viens à lui et je reçois qu'il est mort et ressuscité pour moi. J'aimerais que tu puisses lever ta main partout à travers ce lieu. Wow! Wow! Des dizaines et centaines de mains, je crois qu'il y en aura des milliers en ligne. Chaque personne est précieuse. Il appelle ton nom comme il a nommé Lazare. Il a dit, « Et Pierre, et à Moïse, tu es mon ami. » Après que tout fracassé, il dit ton nom ce matin. Et voici le deuxième appel. Voici le deuxième appel. Il y a quelque chose dans ma vie qui a besoin d'anastasis. Mon appel, ma joie, ma foi, une personne près de moi qui semble comme marchand, mais morte spirituellement. J'aimerais que tu mettes tes mains comme une coupe et que tu puisses les lever vers Dieu et dire, Seigneur, je t'offre ce qui a besoin de résurrection dans ma vie. Il est la résurrection et la vie. Parce que Christ est ressuscité, nous pouvons être guéris. Parce qu'il est ressuscité, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il est ressuscité, il y a une force et une confiance dans l'épreuve. Parce qu'il est ressuscité, le même esprit qui a ressuscité à Christ vit en moi. Alors tends tes mains et offre-lui. Commence à lui parler, ouvre ta bouche et commence à lui parler. Seigneur, je veux te remettre. Je veux te remettre ce qui a besoin de résurrection dans ma vie. Que des centaines de voix montent vers Dieu. Toi, de l'autre côté de ton écran, ne te laisse pas. Il n'y a pas de distance avec Dieu. Tu peux là où tu es. Tu peux là où tu es. Lui remettre, Seigneur, viens ressusciter ma foi, viens ressusciter ma joie, viens ressusciter ma confiance pour l'avenir, viens ressusciter la paix. Seigneur, pour moi et pour quelqu'un près de moi qui est pris, qui est captif, qui est tourmenté, qui semble mort spirituellement, au nom de Jésus, tu es la résurrection et la vie. Nous croyons cela. Faites ta déclaration de foi en ce moment. Dis le nom de ce qui était mort et annonce-le ressuscité. Prononce-le ressuscité au nom de Jésus. Et la dernière portion de l'appel, c'était ici. Tu dis, j'ai échappé l'ampoule. J'ai échappé la lumière. Je l'ai fracassé. J'ai échappé les tablettes. Dans mon mariage, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon appel, dans une sphère ou une autre, j'ai échappé. J'ai fracassé les tablettes. Et j'entends la voix de Dieu dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est ressuscité. Va dire aux disciples et à Claude et à Pierre et à Johan et à chaque personne qui est ici. Va leur dire que je suis ressuscité. Je marche devant eux. Et c'est là, à l'endroit où tu vas tout me remettre, que tu vas vivre ton anastasis. Je vais te tenir sur tes pieds à nouveau. Je vais te lever sur tes pieds à nouveau. Non seulement pour que tu sois pardonné, mais tu n'es pas disqualifié. Et je vais me servir de toi au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Au nom de Jésus, Seigneur, viens par ton esprit, alors que nous allons prier ensemble. Ce n'est pas un chant, c'est une déclaration, c'est une prière. J'ai cet espoir comme une ancre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Et Seigneur, mon Dieu, viens faire éclater ta résurrection et la vie dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Chantons-le, prions-le ensemble et que le Dieu de la résurrection vienne remplir ton cœur et ta vie.